VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 22 décembre 2022. En direct de Washington, Idrissa Sebulia pour commencer les titres. Vous ne serez jamais seul, promet le président américain Joe Biden à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky en visite historique à la Maison Blanche. Et sous les acclamations du Congrès, M. Zelensky a assuré que l'Ukraine ne se rendra jamais face à l'invasion russe. En Côte d'Ivoire, prison à perpétuité requise à Abidjan contre 4 accusés de l'attentat djihadiste de Grand Bassam. Le Rwanda accuse la RDC d'avoir fabriqué le massacre de Kishishe attribué au M23. En Israël, le premier ministre désigné Benjamin Netanyahou annonce être en mesure de former le prochain gouvernement avec ses partenaires des partis ultra-orthodoxes et d'extrême droite. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le président américain Joe Biden a promis à Volodymyr Zelensky de continuer à renforcer la capacité de l'Ukraine à se défendre, en particulier dans le domaine de la défense anti-aérienne. Le président ukrainien a remercié M. Biden pour son grand soutien lors d'une visite historique à la Maison-Blanche Abdulrahman Dia.
Recevant son homologue dans le bureau ovale pour le premier déplacement international du président ukrainien depuis l'invasion de son pays en février, le président américain lui a aussi affirmé qu'il soutenait l'aspiration de Kiev à une paix juste. Le peuple ukrainien reste source d'inspiration pour le monde, a-t-il affirmé. Joe Biden a reproché au président russe Vladimir Poutine d'utiliser l'hiver comme une arme contre les civils en visant les réseaux d'eau et d'électricité. Merci de la part de nos citoyens ordinaires à vos citoyens ordinaires, les Américains, a dit le chef de l'État ukrainien, vêtu comme c'est désormais son habitude d'un pantalon et d'un pull kaki et chaussé de lourdes bottines. Il a fait part à Joe Biden de sa reconnaissance du fond du cœur pour son rôle moteur face à l'invasion de l'Ukraine. Après 300 jours de guerre, Volodymyr Zelensky a réservé sa première visite au pays qui est de loin le premier fournisseur d'aide à l'Ukraine. Washington a annoncé pendant sa visite un nouveau volet conséquent d'assistance militaire, comprenant notamment un système de missiles sol-air Patriot.
Merci Abdou. Après la Maison-Blanche, le président Zelensky s'est rendu à Capitol Hill où il s'est adressé aux deux chambres réunies du Congrès. Sous les acclamations des députés et sénateurs américains, il s'est écrié « L'Ukraine tient ses positions et ne se rendra jamais ». Il a assuré que l'argent versé à l'Ukraine par les Américains n'était pas de la charité, mais un investissement dans la sécurité mondiale et la démocratie. Nathalie Barge.
Accueilli par une ovation debout des parlementaires, M. Zelensky, vêtu de sa traditionnelle tenue kaki, a dit en anglais, je cite, « Contrairement aux prédictions les plus funestes, l'Ukraine n'est pas tombée, l'Ukraine est vivante et combative, la tyrannie russe n'a plus de contrôle sur nous », a-t-il encore affirmé, acclamé à plusieurs reprises lors d'un discours d'une vingtaine de minutes qui a conclu son premier déplacement à l'étranger depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février. M. Zelensky s'est efforcé de convaincre le Congrès, qui va basculer partiellement du côté des Républicains en janvier, de poursuivre son aide massive en exprimant ses remerciements pour l'assistance déjà reçue ou à venir, dont une nouvelle enveloppe de près de 45 milliards de dollars d'assistance humanitaire et militaire. Volodymyr Zelensky a par ailleurs lié le combat contre la Russie à la menace que représente l'Iran, un thème cher au camp républicain qui reproche au président démocrate Joe Biden d'être trop complaisant face à Téhéran. Téhéran qui a fourni à Moscou des drones utilisés contre l'Ukraine. À la fin de son discours, M. Zelensky a remis à Nancy Pelosi, chef de la Chambre basse, et à la vice-présidente Kamala Harris, qui présidait la séance, le drapeau que lui avaient donné des soldats ukrainiens défendant Bakhmout, une ville de l'Est ravagée par les combats. C'est l'étendard de ceux qui défendent l'Ukraine, l'Europe et le monde au prix de leur vie, a souligné M. Zelensky. En retour, Mesdames Pelosi et Harris lui ont remis un drapeau américain ayant été hissé au sommet du Capitole mercredi pour marquer sa visite historique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Côte d'Ivoire, la prison à perpétuité a été requise mercredi à Abidjan contre 4 accusés de l'attentat djihadiste de la ville balnéaire de Grand Bassam, qui avait fait 19 morts en mars 2016, dont des Européens, Nani Talani.
À l'issue d'un réquisitoire de plus de 2 heures, le procureur de la République, Richard Adou, a demandé la perpétuité pour les 4 accusés présents physiquement au procès. 14 autres accusés sont en fuite ou détenus au Mali et parmi eux, certains cerveaux de l'opération pour lesquels le procureur a également requis la prison à vie. Ils sont jugés depuis fin novembre et sont tous accusés d'actes terroristes, assassinats, recel de malfaiteurs, détention illégale d'armes à feu et de munitions de guerre. Les 4 accusés présents à l'audience, Antao Ag Mohamed Cissé, Sidi Mohamed Kunta, Mohamed Cissé et Hassan Barry, sont soupçonnés d'avoir été des complices de cette attaque en aidant les cerveaux de l'opération dans le repérage, ce qu'ils nient. Le 13 mars 2016, 3 jeunes assaillants avaient remonté la plage de Grand Bassam, puis pris d'assaut plusieurs restaurants tirant à la Kalachnikov sur des clients avant d'être abattus par les forces de sécurité ivoiriennes. Revendiquée par ACMI, la branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, cette attaque djihadiste, la première survenue en Côte d'Ivoire, avait fait 19 morts, dont 4 Français.
Le Rwanda a accusé mercredi le gouvernement de la République démocratique du Congo de fabriquer un massacre qui a été perpétré par les rebelles du M23. Selon une enquête des Nations Unies, il y a eu 131 morts parmi les civils. Le point avec Rosine Monezero.
Le massacre de Kishishe est une fabrication du gouvernement de la RDC qu'il a attribué au M23 et qui s'est répandu rapidement sans qu'aucune entité crédible n'ait enquêté sur les faits, a déclaré le gouvernement rwandais. Selon le communiqué de Kigali, l'incident était en fait une confrontation entre le M23 et des groupes armés illégaux alliés aux forces armées congolaises. Accuser le Rwanda de soutenir le M23 est une erreur et détourne l'attention de la cause réelle du conflit dans l'est de la RDC et de son impact sur la sécurité des États voisins, poursuit le communiqué. Une enquête des Nations Unies affirme que 131 personnes ont été tuées à Kishishe. Le M23 a nié être à l'origine du massacre. Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir le M23, ce que dément Kigali, qui a accusé à plusieurs reprises Kinshasa d'être de connivence avec les FDLR, les rebelles Hutus rwandais établis en RDC après le génocide de 1994 au Rwanda.
La Russie a convoqué hier l'ambassadeur de France à Moscou pour protester contre des propos de la chef de la diplomatie française concernant une attaque ayant visé la semaine dernière un responsable russe en Centrafrique, Michel Joseph.
Selon la diplomatie russe, il a été signifié à Pierre Lévy, ambassadeur français à Moscou, le caractère inadmissible des accusations contre la Russie concernant la diffusion de propagande et de violence envers les civils en Centrafrique. La Russie a affirmé que l'un de ses représentants en Centrafrique a été grièvement blessé vendredi à Bangui par l'explosion d'un colis piégé qui serait envoyé depuis Lomé au Togo. Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner avait aussitôt accusé la France. Catherine Colonna, patronne du Quai d'Orsay, avait rapidement démenti en disant que cette information est fausse et que c'est même un bon exemple de la propagande russe. La France accuse régulièrement le groupe Wagner d'orchestrer des manipulations des opinions publiques dans plusieurs pays africains, notamment en Centrafrique et au Mali.
À quelques minutes d'une échéance cruciale en Israël, le premier ministre désigné Benjamin Netanyahou a annoncé tard mercredi soir être en mesure de former le prochain gouvernement avec ses partenaires des partis ultra-orthodoxes et d'extrême droite. Vainqueur avec ses alliés des élections législatives du 1er novembre, M. Netanyahou avait jusqu'à 23h59 local mercredi pour annoncer au président Isaac Herzog qu'il avait réussi réussi à former le prochain gouvernement, succédant ainsi au premier ministre sortant Yair Lapid. Ce gouvernement devrait être, selon les analystes, le plus à droite de l'histoire d'Israël. En Afghanistan, des centaines de femmes ont été empêchées mercredi par des gardes armés d'entrer dans les campus universitaires au lendemain de la décision des autorités d'interdire les études supérieures aux jeunes femmes déjà privées d'enseignement secondaire. Aucun nouveau mort du Covid-19 n'a été signalé mercredi par la Chine, après un changement de méthodologie controversée pour y recenser les cas et malgré une vague de contamination inédite face à laquelle l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, très préoccupée, l'appelle à accélérer la vaccination des plus vulnérables. La Minute Éco, Nani Talani.
La croissance économique du Ghana a ralenti à 2,9% en glissement annuel au troisième trimestre de cette année, contre 6,6% à la même période de l'an dernier, a annoncé mercredi le service ghanéen des statistiques. C'est sa pire performance depuis le premier trimestre 2021. La croissance a été soutenue par le secteur agricole, tiré essentiellement par la pêche. L'industrie a connu la croissance la plus faible, son sous-secteur manufacturier reculant de 7,4%, mais le secteur minier a progressé de 14,9%. La Banque mondiale se dit préoccupée par la lenteur des créanciers à discuter de la restructuration de la dette avec la Zambie, alors qu'elle est en train de débloquer 100 millions de dollars pour ce pays criblé de dettes. La Zambie a un besoin urgent d'allègement de sa dette pour rétablir la viabilité de sa dette à moyen terme et attirer les nouveaux investissements nécessaires à la croissance et à l'emploi, a déclaré mercredi le président de la Banque mondiale, David Malpass, dans un communiqué. Terminons par le FMI qui a approuvé le décaissement de 27,41 millions de dollars en faveur de la Gambie. Ces fonds permettront à ce pays d'Afrique de l'Ouest de répondre à ses besoins de financement, a indiqué le FMI dans un communiqué mardi.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Bagassi Kourab.
L'Afrique est optimiste pour son avenir en Coupe du Monde après le Mondial 2022 au Qatar. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, s'est dit convaincu qu'une équipe du continent peut atteindre la finale au Mondial 2026. Le Maroc a ouvert la porte en saisissant une demi-finale ce mois-ci et je suis convaincu qu'une nation africaine ira plus loin lors de la prochaine Coupe du Monde, a déclaré Motsepe lors d'une conférence de presse mercredi à Johannesburg. En plus du Maroc qui a accédé en demi-finale au Qatar, le président de la CAF a salué les exploits du Cameroun et de la Tunisie face au Brésil et à la France respectivement. L'Afrique aura des chances supplémentaires de faire ses preuves au Mondial 2026 prévu aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Le continent y enverra 9 ou 10 équipes. La tenniswoman Aryna Sabalenka, numéro 5 mondial, plaide pour un retour des joueurs belarusses et russes au tournoi de Wimbledon en 2023. Demi-finaliste de Wimbledon en 2021, Sabalenka figure parmi les joueurs de haut niveau et a été exclue de Wimbledon en juin dernier suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. « S'ils nous interdisent de jouer pendant un an de plus, je vais m'amuser chez moi à Miami, passer du temps avec ma famille et faire une autre pré-saison », a déclaré la joueuse de 24 ans en marge du tournoi d'exhibition des équipes World Tennis League à Dubaï. Une grande première pour le Tour de France en 2024, la 111e édition de cette mythique course cycliste partira de Florence en Italie et l'arrivée sera jugée à Nice. Trois étapes seront courues en Italie. Le Tour est parti de tous les pays voisins de la France, sauf l'Italie, une omission qui sera réparée en 2024. En Italie, justement, l'international italien de rugby d'origine guinéenne, Chérif Traoré, accuse ses coéquipiers de racisme. Il a révélé mercredi que ceux-ci lui ont offert une banane pourrie comme cadeau de Noël. Le plus blessant, a-t-il dit, c'était de voir tous ses coéquipiers rire comme s'il s'agissait d'une situation normale. Chérif Traoré, qui compte 6 sélections en équipe d'Italie de rugby, a dit qu'il a décidé de ne plus rester silencieux face à de tels incidents. Son club, qui a condamné dans un communiqué, a réitéré sa ferme condamnation de toute expression de racisme et ou de toute forme de discrimination. Fin de citation.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, se dit satisfait des conclusions du sommet États-Unis-Afrique qui s'est tenu la semaine dernière à Washington. En outre, le président congolais, qui est aussi à la tête du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, a attiré l'attention sur la nécessité de résoudre la crise politique libyenne. Dans une interview exclusive à Mariama Diallo de la VOA, le président Denis Sassou Nguesso revient sur la multiplication des coups d'État ces derniers temps en Afrique de l'Ouest.
Tous ces changements anticonstitutionnels ont été condamnés par l'Union africaine, par principe, parce que l'Union africaine, les dirigeants africains souhaitent que le processus démocratique, même s'il est difficile, il vaut mieux qu'il se poursuive avec des difficultés, mais qu'il se poursuive quand même, et qu'il n'y ait pas d'entrave. Et cela a été condamné au niveau de l'Union africaine. Maintenant, le paradoxe pourrait être le fait que dans certains cas, certains coups d'État sont approuvés par les peuples. Quand on observe, hein, c'est là où se trouve le paradoxe, que certains coups d'État, j'ai dit, sont approuvés, je mets cela entre guillemets quand même, hein, par les peuples. Bon, en fait, mais dans le fond, on souhaiterait quand même que le processus démocratique engagé en Afrique qui se poursuive. C'est la position de l'Union africaine et de l'ensemble des dirigeants. Pas la CDAO seulement, mais l'Union africaine.
Vous allez rester dans la politique. Écoutez, vous êtes élu et vous avez été élu et réélu. Vous pensez déjà au futur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous allez à la prochaine élection?
Les gens qui gouvernent en pensant à la prochaine élection, et ils abandonnent l'essentiel pour penser à leur. Je ne suis pas dans ce cas-là. Et moi, j'exécute les programmes pour lesquels j'ai été élu, parce que j'ai proposé à mon peuple un certain nombre d'actions. Il faut que je me batte pour qu'elles soient mises en œuvre. Et je ne pense pas à la prochaine élection. Pas du tout. Voilà. Pas du tout.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler.
Je vous en prie.
Monsieur Guesso et Monsieur le Président, un dernier mot.
Bon, le sujet qu'on n'a peut-être pas beaucoup abordé, c'est le sujet de paix et de sécurité en Afrique. Parce qu'on parle de tous ces développements. Et s'il n'y a pas la paix et la sécurité en Afrique, on ne réalisera rien.
C'est pour ça que j'ai posé la question sur les coups d'État, par exemple.
Bon, mais pas seulement. Il y a le terrorisme.
Le terrorisme.
Il y a le développement du terrorisme en Afrique. Et il y a le dossier important de la Libye. Et je pense que tant qu'on n'aura pas bien résolu le problème de la Libye, et on ne verra pas le bout du tunnel dans le Sahel. Et donc le problème de développement du terrorisme, d'extrémisme violent en Afrique, le problème de paix de manière globale, et c'est un problème important.
Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
En RDC, le gouvernement salue la levée mardi par le Conseil de sécurité de l'ONU de l'obligation de notification sur l'acquisition d'armes. Le porte-parole du gouvernement a fait savoir que cette décision permettra à la RDC de se doter des armes nécessaires pour assurer sa défense. L'opposition et la société civile ont, elles aussi, salué cette décision du Conseil de sécurité de l'ONU et réclamé plusieurs fois par les autorités congolaises. C'est tout un pays qui salue cette avancée, nous dit notre correspondant à Kinshasa, Alex Kati Kataï.
Cette résolution vient corriger une injustice qui empêchait notre pays à se doter librement d'équipements militaires pour assurer sa défense, a déclaré le gouvernement congolais dans un communiqué publié mardi soir. L'adoption de cette résolution sur la levée de l'obligation des notifications d'achat d'armes est une victoire de la diplomatie congolaise, affirme Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères.
C'est une victoire diplomatique mais sans triomphalisme. Nous devons cette victoire en vérité au courage politique, au dynamisme et à la détermination du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et je peux témoigner comme ministre des Affaires étrangères, travaillant avec lui jour et nuit, qu'aucun jour je n'ai lu sur les visages du président le découragement, l'affaiblissement, quelques signes que ce soit qui prouvent qu'il va lâcher.
Avec cette nouvelle résolution, l'opposition estime que le gouvernement n'aura plus de raison de ne pas défendre l'intégrité du territoire national. Blanchard Mongomba, de Nouvel Élan, un parti d'opposition, précise que cette résolution n'est pas à mettre à l'actif du gouvernement, mais plutôt la victoire du peuple congolais.
Nous devons parler État, nous devons parler République au lieu de parler gouvernement. C'est même le fruit du combat, des marches, revendications de la population congolaise qui a manifesté cette volonté et les Nations Unies ont compris que c'est un peuple qui s'est exprimé, d'où la nécessité d'élever cette mesure de manière à permettre à ces peuples d'appliquer ou d'exercer sa souveraineté selon que son État est agressé.
C'est tout un peuple qui salue cette décision du Conseil de sécurité de l'ONU. La société civile parle d'une avancée importante, mais réclame des Nations Unies encore plus. Jonas Tshombela, de la Nouvelle Société Civile du Congo, appelle l'ONU à sanctionner les agresseurs du Congo.
Mais en même temps, nous restons inquiets, comme si on tentait de consacrer l'impunité. Nous appelons le Conseil de sécurité et la communauté internationale d'envisager les sanctions contre le Rwanda et les terroristes du M23, le pays agresseur de la République démocratique du Congo. C'est de cette manière que nous pourrions encourager la lutte contre l'impunité et la déstabilisation des pays voisins dans la sous-région.
Une résolution décrétant l'embargo sur les armes en RDC avait été adoptée en 2008. Le Conseil de sécurité avait décidé d'appliquer cet embargo exclusivement aux groupes armés, tandis que les fournisseurs du gouvernement étaient soumis à un régime de notification au comité de surveillance de l'ONU. Une décision qui handicapait le gouvernement dans l'acquisition des armes. L'acteur politique Thierry Monsenepo appelle le gouvernement à renforcer le contrôle de ces armes afin d'éviter de nouvelles sanctions.
Il est donc important que nos responsables militaires puissent prendre en compte que cette levée de la notification est, c'est vrai, un acte positif, mais c'est aussi une interpellation morale en l'endroit de ces autorités et aussi du gouvernement qui devrait nécessairement et désormais prendre plus de précautions en ce qui concerne les mouvements et la mobilité des armes sur le territoire congolais.
L'ONU tient à préciser que cette décision concerne exclusivement le gouvernement congolais. L'embargo sur les armes reste maintenu pour les groupes armés. Alex Kati Kataï, Kinshasa, VO Afrique.
Au Cameroun, les autorités ont déployé les forces de sécurité dans la ville portuaire de Douala pour lutter contre de violents gangs. De nombreux magasins sont restés fermés pendant que la police interpellait des centaines de jeunes armés. Le regain de violence a perturbé les exportations vers le Tchad et la République centrafricaine. Reportage de Moki Edwin Kinzeka à Douala et récit de Lionel Gahima.
À l'issue de deux jours de réunion de sécurité, hier, le président Paul Biya a ordonné le déploiement des troupes à Douala. Le nombre des soldats déployés n'a pas été précisé, mais des habitants font état de l'arrivée sur place de 13 camions des militaires. Leur présence est nécessaire dans la mesure où la police locale fait face quotidiennement à des gangs armés, ont précisé les autorités. La violence a commencé il y a 3 semaines lorsque des centaines de membres d'un gang appelé les Microbes ont investi le plus grand hôpital de Douala, où un de leurs camarades blessés par balle était soigné. Ils ont saccagé l'établissement et battu le personnel soignant. Des centaines de jeunes gens ont été appréhendés dans le cadre des opérations de sécurité. En Bopi, l'un des quartiers populaires de Douala, de nombreuses échoppes sont restées fermées. L'un des propriétaires, Evans Ebois, âgé de 37 ans, dit attendre les assurances du gouvernement avant de reprendre ses activités.
Ils sont en train d'amener de vieux machettes à personne. C'était un coup très préparé parce que la première vague qui montait cassait seulement les vitres des boutiques, ils ne ramassaient pas. La deuxième vague suivait, influençait avec les machettes.
Certains habitants imputent la vague de violence urbaine au chômage des jeunes, mais aussi à l'afflux à Douala des réfugiés centrafricains. Samuel Frank Vondo importe des motos de Chine.
Nous avons des infiltrés, les étrangers et d'autres bandits qui vivent dans notre cité, qui infiltrent ce secteur pour commettre des forfaits. Le fait que le MINAT autorise, exige que pour acheter la moto, avant que la moto ne sorte, elle doit être immatriculée, va nous permettre d'identifier, d'avoir un fichier fiable.
Les autorités camerounaises n'ont pas précisé le nombre d'étrangers parmi les personnes interpellées. Elles soulignent cependant que plus de 15 000 Nigérians vivent à Douala. Pour la plupart, des vendeurs de motos et des pièces détachées. Sur les ondes de la télévision nationale, l'Association des hommes d'affaires nigérians de Douala a appelé ses membres à respecter les lois de leur pays d'accueil. Selon le conseil municipal de Douala, moins de 5% de quelques 30 000 conducteurs de mototaxis de la ville ont le permis de transport des passagers. Samuel Dieudonné Ivara Dibois, gouverneur de la région du littoral dont Douala est le chef-lieu, a imposé un couvre-feu nocturne pour les motos jusqu'à nouvel avis.
Les mototaxis eux-mêmes ont reconnu que parmi leurs collègues, il y en a qui facilitent des actes de vandalisme. Cela nous a permis de revoir notre dispositif sécuritaire pour que nous continuions à assurer la paix, pour que les fêtes se passent dans des meilleures conditions.
La police affirme que les gangs ont bloqué plusieurs camions de marchandises à destination des pays voisins et enclavés comme le Tchad ou la Centrafrique.
En 2022, les pays africains de la région occidentale du Sahel, dont le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont enregistré une augmentation de 50% des décès dus au conflit, selon les chiffres de Armed Location and Event Data Project. Au fur et à mesure que la violence s'est propagée, l'influence et l'instabilité politique de la Russie se sont également étendues avec une augmentation des coups d'État et du nombre de personnes déplacées. Reportage d'Henry Wilkins à Niamey au Niger, récit de Nani Talani.
Alors que le conflit du Sahel occidental entrait dans sa 11e année en 2022, la violence s'est aggravée. Les données de Armed Conflict Location and Event Data Project montrent environ 9000 décès dus au conflit en 2022. Certains, comme Bachirou Ouédraogo au Niger, pensent que la Russie remédiera à l'insécurité du Burkina Faso.
Le souci, et puis en fait aussi, la France, on était avec la France depuis longtemps. Actuellement, on ne peut pas dire, il y a chose partout, il y a des terroristes partout. S'ils veulent nous aider à lutter contre les terroristes, ce n'était pas aujourd'hui. Depuis, ça n'allait finir. Mais si tu es avec quelqu'un et puis ton problème n'arrange pas, il faut le débarrasser et puis tu cherches quelqu'un qui va t'aider à arranger ton problème.
2022 a également vu la France terminer l'opération Barkhane. La France déplace maintenant une grande partie de son opération militaire au Sahel vers le Niger. Les juntes maliennes et burkinabées ont dénoncé l'incapacité des précédents gouvernements à combattre l'insécurité. Interrogé sur la manière dont le conflit du Sahel pourrait se développer en 2023, un analyste a déclaré à la VOA:
ce qui reste à voir, c'est ce qui se passe pendant que la population du Mali comprend que les choses empirent malgré tout. Le Burkina Faso, je m'inquiète beaucoup. Je pense qu'étant donné l'ampleur du problème au Burkina Faso, je crois qu'ils ont besoin de beaucoup plus d'aide internationale. J'aimerais voir le gouvernement américain s'impliquer davantage pour aider le gouvernement burkinabé.
Les analystes ont également noté qu'un nombre croissant d'attaques terroristes ont lieu dans les régions du nord de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo et du Bénin, ainsi que le long des frontières avec le Burkina Faso et le Niger. Pendant ce temps, les droits humains continuent également de se détériorer. Daouda Diallo dirige un groupe burkinabé de défense des droits, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés.
Il faut dire très clairement que depuis janvier à nos jours, avec une grande tristesse et amertume, on a constaté que la situation sécuritaire a continué à se dégrader. Et parallèlement à cette dégradation de la situation sécuritaire, il y a les cas de violation des droits humains qui ont gagné du terrain.
Au total, plus de 2,5 millions de personnes ont été déplacées par le conflit au Sahel.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seydoudia, à la mise en ondes, Firmin Koyaweda, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée.